D'un côté, il y a ce contexte de montée en puissance d'un courant idéologique qui était très minoritaire en Inde autrefois. Il y a dans cette famille nationaliste hindoue des groupes ultra et militants qui sont en première ligne dans les attaques contre les chrétiens, comme souvent du reste contre les musulmans. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est parmi ces groupes militants, c'est l'idée que les chrétiens mènent une politique de conversion active. Et cette question de la conversion, c'est une question qui est devenue très sensible parce qu'elle a été mise en avant pour des raisons qui ne sont pas uniquement idéologiques, mais qui sont aussi de lutte politique, dans la mesure où ces conversions, quand elles ont lieu, touchent des milieux défavorisés, soit les Dalits, ce qu'on appelait autrefois les intouchables, soit des tribus, alors même que ces forces du nationalisme hindou, qui au départ émanaient des hautes castes, essaient de se construire, avec un certain succès, il faut le dire, une clientèle à la fois idéologique et politique dans les couches les plus défavorisées de la population.
On dit que si les chrétiens, quoique minoritaires, sont visés, c'est en raison de leur engagement en faveur de l'émancipation de certaines catégories de la population. Est-ce que c'est vrai ?
Il est vrai que chez ceux qui s'opposent violemment aux chrétiens, il y a cette idée que le travail social, ce qui est fait par le biais de l'enseignement, c'est un moyen de subvertir en quelque sorte les nouveaux convertis en les attirant pas seulement pour des raisons de foi, mais aussi pour des avantages matériels. Alors on est évidemment là dans un contexte de grande compétition électorale, démocratique, si on ose employer ce mot dans un tel contexte, pour avoir les retombées politiques vis-à-vis de telle ou telle clientèle spécifique.
Alors d'après des témoignages, la police laisse faire quand elle n'est pas directement impliquée dans les violences, tout comme d'ailleurs certains gouvernements locaux.
Ben, on avait vu ça en tout cas très clairement au Gujarat lors de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant le pogrom anti-musulman de 2002. On est là face à ce qui est malheureusement un grand classique des dérives de la politique indienne et du jeu parlementaire avec des gouvernants, quelle que soit leur étiquette, qui cherchent à ne pas perdre les voix de la majorité en protégeant les minorités. Que la police n'intervienne pas, c'est malheureusement là aussi un grand classique, et c'est pour cela d'ailleurs qu'une question se pose généralement. Quand il y a des troubles très graves, il revient normalement au gouvernement, s'il a l'impression que la police ne fait pas son travail, de faire appel à l'armée. Car l'armée, par définition, n'a pas l'ancrage local qu'a la police.
Est-ce que cette violence sociale et communautaire n'est pas en contradiction avec la croissance économique de l'Inde ?
Les violences qui s'exacerbent traduisent plutôt une compétition accrue parmi tous ceux qui ne bénéficient pas des fruits de la croissance. Et le gouvernement central indien le reconnaît lui-même quand il parle de la nécessité de faire une croissance inclusive. On voit bien que dans une Inde qui bouge, les zones les plus à la traîne, ou même dans les zones avancées, les communautés les plus à la traîne, sont l'objet d'une compétition entre ceux qui essaient de les mettre de leur côté.
Comment expliquer, à votre avis, le silence qui entoure ces violences en Occident, silence des médias, silence des politiques ?
C'est une bonne question. On peut s'interroger. On peut se demander si c'est parce que les images ne circulent pas. Et puis on peut se demander aussi si, alors que, d'un point de vue politique, le Premier ministre indien sera prochainement en France pour le sommet d'Europe, puis pour des discussions bilatérales, on préfère opter éventuellement pour un entretien discret entre hauts dirigeants plutôt que pour des débats publics sur cette question.